dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là.
Salut tout le monde, épisode numéro 3 aujourd'hui. Et on accueille Alex. S'il fallait mettre une seule étiquette pour caractériser ses engagements, je serais bien embêté. Car outre la lutte antinucléaire, elle s'engage aussi sur d'autres fronts dont on va parler ensemble. On a beaucoup parlé d'engagement, que je qualifierais, disons, d'alternatif, dans le sens où cet engagement ne se réalise pas dans des organisations qui ont pignon sur rue. Et toute la fin de l'échange m'a paru stimulante sur les perspectives de la lutte, sur les façons de s'adresser et d'inciter les personnes déjà convaincues à s'engager. Voilà, c'est en tout cas un épisode dont je suis très content et très fier. Et je remercie encore Alex de s'être prêté au jeu, c'était très chouette. À part ça, on m'a fait une petite suggestion dernièrement, à savoir, expliquer le sens de termes, de notions qui pourraient ne pas être claires. Du coup, quand vous entendrez ce jingle, j'interromprai mon invité et vous m'entendrez rajouter une petite explication. Je vous remets le jingle au cas où. Il est facile à reconnaître, j'espère qu'il ne va pas vous saouler trop vite. Si cet épisode vous a plu, merci de le faire connaître, notamment sur les réseaux sociaux. On a encore besoin de gagner en visibilité. Et si cet épisode vous a plu, surtout, une petite suggestion comme ça au passage, vous sortez la phrase qui vous a le plus marqué, vous la recopiez sur une feuille de papier canson que vous collerez sur la porte de vos toilettes. Ça fera réfléchir vos invités qui vous remercieront, c'est sûr. Allez, c'est parti.
Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir radio prend place et le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir radio prend place et le vieux monde est à la casse.
Salut Alex, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 6 mois dans le cadre d'une action qui réunit plusieurs organisations et c'est en préparant cette action que je me suis rendu compte qu'on a à la fois des pratiques assez différentes, des pratiques et des cultures assez différentes. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie qu'on échange pour ce podcast Rue des Bons Enfants qui traite en un mot des luttes. Et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors, je n'ai pas trouvé de thème qui pourrait chapeauter l'ensemble des sujets que j'aimerais aborder avec toi. Et en vrac, ces sujets seront ton parcours, la notion de militantisme, et on parlera aussi de la lutte à Bure contre le projet d'enfouissement de déchets radioactifs. Première question, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Bah, avec plaisir. Bah, en quelques mots, moi, c'est Alex. J'ai une trentaine d'années. Je vis plutôt dans une zone plutôt rurale, en collectif. Et je dirais que politiquement, je me rapproche de tendances et de mouvements libertaires.
Libertaire, ça veut dire qui est très attaché à la liberté individuelle et qui, par conséquent, rejette toute forme d'autoritarisme politique dans l'organisation sociale. En général, on considère que anarchiste et libertaire sont des synonymes.
Et que les sujets sur lesquels je suis particulièrement active, ça serait les questions féministes et antinucléaires et d'écologie plus largement. Mais voilà que mes bases politiques sont plus proches des... se brassent beaucoup plus larges et sont plus proches des... de lutte anticapitaliste, anti-impérialiste et voilà.
Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur le tout début de tes engagements. Comment est-ce que tu as franchi le pas pour rejoindre un groupe, pour t'engager pour une cause ? Est-ce que justement il y a eu un pas à franchir ou bien ça a été plutôt un cheminement progressif ?
Eh bien, moi, j'étais pas tant à l'aise en me posant la question quand j'ai réfléchi un petit peu à cette question. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément très inspirant comme parcours parce que j'ai un peu... politiquement, je suis contre l'héritage, n'est-ce pas ? Mais on a tous des héritages culturels qu'on ne peut pas refuser. Et en fait, oui, c'est un héritage familial, en fait. Et je pense que c'est pas du tout la seule manière de faire de la politique ou de rentrer, mais c'est vrai que... pour moi, jusqu'à peut-être mes études supérieures, l'action politique, elle était représentée par le combat syndical et par les mouvements sociaux et par les luttes, par les voilà, par par le syndicat que je voyais à travers ma famille, etc. Et du coup, ce qui m'a amené très vite à moi-même en intégrer et après à plutôt affiner mes opinions politiques et à rentrer dans divers types d'organisations, etc. Mais ça a été clairement un cheminement que j'ai dont j'ai hérité finalement. Et voilà. Mais je pense qu'il y a plein d'autres manières de se politiser et de rentrer dans l'action politique. Et voilà.
Justement, sur cette question de comment faire pour amener des personnes ou comment des personnes font pour se rentrer dans l'action politique, on y reviendra certainement un peu plus loin. Et en préparant cette discussion, tu m'as dit être assez frileuse avec l'emploi du terme militantisme et du terme militant ou militante. Pour quelle raison ?
Je ne sais pas si je suis frileuse. En tout cas, c'est vrai que moi-même, je l'ai utilisé beaucoup. Je l'utilise encore parce qu'en fait, c'est tellement présent dans notre langage que je suis inscrite de ça, quoi. Mais c'est vrai que ces dernières années, en reconsidérant peut-être mes opinions politiques et mes bases politiques, je me suis rendu compte que, outre la militance et la militance dans des organisations, etc., l'action politique, elle était partout, au quotidien, dans la lutte du quotidien, parce que, en fait, la lutte contre le système capitaliste, le système patriarcal, le système impérialiste et raciste, il est tout le temps, il est au quotidien, il est dans nos vies.
Le patriarcat est un type d'organisation sociale où l'autorité est exercée par les hommes. Et l'impérialisme, c'est la tendance d'un État à mettre d'autres États sous sa dépendance politique, économique, culturelle.
Et qu'en fait, le terme dit militant, il crée une distinction forte entre des personnes qui auraient ce statut parce qu'elles auraient milité, du coup, parce qu'elles auraient été dans des organisations, parce qu'elles auraient un peu un palmarès, tu vois, un peu un CV, finalement, qui pourrait leur donner ce titre, ce rôle, et qu'en fait, dans la société, ces dernières années, je pense que j'ai croisé beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient en lutte, fondamentalement, et qui étaient en lutte perpétuelle contre des dominations de classe, contre des dominations de genre et autres, et qui se battaient et qui luttaient, et leur action politique, elle était peut-être, parfois, je trouvais 100 fois plus pertinente que la mienne ou autre, mais qui n'avaient pas droit à ce statut de militant ou qui eux-mêmes ne se l'attribuaient pas. Et du coup, il y avait un truc très d'entre-soi et de ressemblance et de participer à des grosses organisations. C'est un peu un titre, un rôle qui, parfois, je trouve, nous sépare un petit peu. Enfin, du joie, je dis nous. Ah, lapsus révélateur. Qui sépare un petit peu d'autres formes de lutte que je trouve largement légitimes.
Ma question d'après, c'était est-ce que tu penses qu'il existe un militantisme en dehors des associations connues nationalement et des ONG ? Donc ta réponse est évidemment oui, d'après ce que tu viens de me dire. Et donc, quelle forme cette façon de s'engager peut prendre ? Et en quoi est-ce que c'est complémentaire du militantisme que je qualifierais de traditionnel, sans connotation péjorative ?
Ces formes d'action politique en dehors des organisations des grosses organisations, des associations, des structures nationales, non seulement elle existe, mais moi je pense que politiquement elle est indispensable et que elle peut se structurer de manière différente et elle existe de manière différente. C'est aussi bien les plus petites structures et les plus petites associations qui vont plus être sur des sujets locaux ou régionaux, qui vont plus être à l'échelle d'une ville ou d'un territoire et qui sont qui connaissent des problématiques particulières et qui sont aussi importantes. Et ça peut être aussi des groupes non structurés sous la forme d'associations, mais qui vont être plus des collectifs autonomes, des groupes affinitaires, etc.
Un groupe affinitaire, c'est un petit groupe de personnes organisées de façon non hiérarchique et informelle et qui luttent ensemble dans un même objectif.
Les grosses organisations nationales, elles sont hyper intéressantes. Et elles sont importantes, elles ont une fonction dans la lutte. Elles vont être plus visibles médiatiquement à des moments donnés. Elles vont avoir des forces de frappe à des moments précis qui sont intéressantes. Mais elles sont aussi de leur fait de leur poids, elles sont vachement plus lentes, elles sont pas très réactives, elles sont sans doute plus consensuelles aussi, du fait de leur grosseur, quand elles sont pas des partenaires de dialogue des gouvernants. Et elles connaissent pas non plus souvent les problématiques locales qui sont tout aussi importantes. Et du coup, pour moi, on a absolument besoin, en fait, de ces structures plus locales, mais aussi de ces petits groupes autonomes et affinitaires qui sont beaucoup plus réactifs et souvent qui portent aussi des positionnements plus radicaux et du coup qui sont importants dans dans l'échiquier pour aussi tirer la radicalité dans notre sens, quoi. Et je sais pas, sur ce truc de réactivité, je le vois au quotidien dans nos villes et dans nos territoires où en fait souvent on a besoin d'être hyper réactif sur, je sais pas, des expulsions, sur des occupations, sur faire des cantines populaires, faire tout plein de choses qui, en fait, ont besoin d'être ultra réactifs, qui ont besoin souvent de aussi dépasser le cadre légal, souvent, et de se dire, en fait, les grosses orgas, elles sont un peu tout le temps obligées pour leur statut et pour de vraiment respecter des fois des règles qu'on ne trouve pas légitimes. Et justement, avec ce côté plus réactif des petites structures ou des groupes informels, on peut dépasser ça.
Donc c'est à la fois c'est cette façon de s'engager, ça permet à la fois d'établir un rapport de force différent, mais aussi de construire des alternatives. On n'est pas forcément uniquement dans la logique de lutte, mais aussi de construire, des alternatives. Tu parlais de proposer des soupes populaires, là c'est pas directement dans la logique d'un rapport de force.
Pour moi, ça fait partie du rapport de force. Pour moi, on n'est pas du tout dans la construction d'alternatives quand on est dans la rue et qu'on pose une table de manière complètement, sans demander l'autorisation à personne, c'est se réapproprier l'espace public. Ça fait complètement partie du rapport de force. Quand on estime qu'on ait le droit ou pas le droit, il faut faire de la distrib de bouffe, il faut faire des cantines pour faire du lien social, et pas par charité, en fait. Parce que c'est un moyen de se réapproprier l'espace public, parce que c'est un moyen que les gens se rencontrent et de croiser différents milieux, etc. Pour moi, on est dans ce genre d'action, on est profondément dans la lutte et dans l'établissement d'un rapport de force et pas du tout sur la construction d'alternatives.
Tu pourrais développer un peu cette idée de réappropriation de l'espace public, parce que on estime aujourd'hui que l'espace public, c'est il y a un enjeu politique et de confrontation entre les classes dominantes politiquement et économiquement et le reste de la population.
Ouais, c'est un rapport de force qui s'exprime vraiment fort dans la rue. En fait, on le voit tout le temps, que ce soit entre les différents quartiers d'une ville et leurs différentes classes sociales qui les composent, où il va y avoir entre quartiers des rapports de force, et encore plus avec l'aménagement des villes et avec la gentrification qui s'opère par les projets urbains et par la spéculation immobilière et la complicité qu'il y a avec les mairies.
La gentrification, c'est la transformation de quartiers populaires due à l'arrivée de catégories sociales plus favorisées. On parle aussi d'embourgeoisement.
Et des luttes de territoire, des luttes d'espace, où en fait, ça se joue où ? Ça se joue dans la rue. Ça se joue sur se réapproprier les murs, ça se joue sur se réapproprier les logements vides, ça se joue sur se réapproprier la rue pure et simple quand on n'est pas censé y être. C'est plus sur les rapports aux classes dominantes et à l'État. Mais en fait, c'est vrai sur tous les sujets. C'est vrai sur se réapproprier en tant que... quand on n'est pas un mec, se réapproprier l'espace public en osant sortir alors que c'est des endroits où on n'est pas attendu, on n'est pas voulu après certaines heures et passer certaines activités. Certains quartiers entièrement blancs où c'est se réapproprier l'espace que d'y aller et de faire ces trucs quand on n'est pas blanc dans certains quartiers. C'est tout. Enfin, la rue, c'est vraiment, pour moi, une expression... de tous les rapports de force, de tous les rapports de domination, et où on peut vraiment... Enfin, c'est là où on peut lutter, quoi, vraiment. Et pas seulement par la manif, mais par mettre des tables et diffuser des brochures, par faire des collages sur les murs, par tout, quoi. Par notre simple présence, parfois, qui dérange.
Donc, tu me disais avant, mais j'ai l'impression que ça répond aussi d'une certaine façon à ce que tu viens de dire, que ton engagement se concrétise dans les interstices, les creux et en parallèle des grandes mobilisations. Est-ce que tu pourrais expliciter cette idée ?
Alors, oui. quand on parle de militantisme, notamment, et de lutte politique, je pense que c'est assez dommageable et dangereux de penser seulement en termes de temps fort et de mobilisation. Ces mobilisations, du coup, qui sont les temps forts de la lutte, qui vont être les grandes manifs d'opposition à une réforme, qui vont être les conférences sur le climat pour le mouvement climat, qui vont être les grandes manifestations contre les violences policières dans le cadre, enfin, pour les militants antiracistes. Et c'est trop important. Genre vraiment, c'est des temps forts qui nous permettent de nous retrouver, qui nous permettent de nous compter, qui nous permettent de se rencontrer, où là, on peut se compter et voir si on a le rapport de force, etc. Et c'est génial. Mais il ne faut pas oublier que, en fait, ça, c'est juste des temps réguliers et qu'au milieu de ces temps, en fait, c'est là où tout se passe. C'est là où on construit des choses de fond, c'est là où on fait de l'information, de la sensibilisation, où on recrute des personnes, c'est là où... où on prépare la suite, en fait, où on se construit politiquement aussi. Où, en fait, quand on arrive à avoir un argumentaire prêt pour la mobilisation, c'est aussi parce qu'il y a eu plein de réflexions théoriques et politiques en amont pendant ces fameuses ces interstices, quoi. Et puis, il y a aussi le fait que, trop souvent, les mobilisations, elles sont hyper orientées en réaction à quelque chose. Et que, moi, je trouve ça super important d'être dans la réaction et l'opposition à des choses horribles qui se passent, que ce soit des réformes ou... voilà. Mais on se laisse dicter notre agenda. Nos mobilisations, elles sont calquées sur l'agenda de nos ennemis et de nos adversaires. Et si nous, on n'a pas notre propre agenda, nos propres plannings, etc., et bien ça se construit justement au milieu. C'est justement en dehors de ces grands moments, de ces grands temps forts qu'on va construire... qu'on va penser à c'est quoi les points forts qu'on voudrait dire, parce que, enfin, c'est quoi les... Enfin, voilà, quoi. Enfin, juste pas se laisser dicter notre agenda, et ça se passe dans ces interstices. À titre très personnel, je pense que c'est hyper important de se dire qu'on a tous on est tous différents dans les gens, par exemple, qui luttent entre nous, dans nos collectifs, et qu'on a des affinités particulières avec des choses différentes. Et que moi, personnellement, je sais que je vais me sentir mieux, justement, dans ces... je vais me sentir plus utile et plus efficace et être plus à ma place, juste dans ces fameuses interstices. Et d'autres seront beaucoup plus à fond pendant ces moments de mobilisation. Il n'y a pas un truc mieux que l'autre, quoi.
Alors, justement, sur ce point-là, pour des personnes qui sont aujourd'hui peu engagées, comment est-ce que, d'après toi, ces personnes... doivent choisir la façon dont elles vont s'engager. Est-ce que justement elles le font en fonction de questions d'efficacité, d'aller vers le résultat, ou bien de se dire ben, je me sens bien dans cette façon de faire, alors c'est cette façon de faire que je vais choisir.
Elle n'est pas un peu orientée, ta question? Moi, je pense souvent stratégie. Genre très clairement, j'ai du mal à m'enlever ce cerveau très orienté vers l'objectif, qui a toujours envie de réfléchir à qu'est-ce qui est stratégiquement pertinent, qu'est-ce qui va être qui nous rapporter le plus stratégiquement, à tel moment il faudrait faire plus ci que ça. Et je pense vraiment que certaines actions politiques sont plus, à un moment T, vont être plus stratégiques que d'autres, et que ça, il faut y réfléchir. En revanche, en fait, juste écoutons-nous, quoi. Et en fait, il y a des choses qu'on kiffe faire et des choses qu'on kiffe pas faire, et que on va pas se lancer et qu'en fait, je suis pour apprendre à faire plein de choses et des fois se faire un peu violence pour apprendre des choses qu'on fait pas bien. Mais en fait, de fait, on a aussi des spécificités qui font qu'il y a tel type d'action ou tel type de structure qu'on préfère. Et pour moi, il faut vraiment... Enfin, le monde, il est déjà assez violent. Enfin, au bout d'un moment, il faut aussi aller vers ce qui nous fait du bien et ce qui nous apporte du plaisir. Et pour moi, en fait, lutter, c'est pas du tout quelque chose qui me fait mal. En fait, ce qui me fait mal, c'est d'être dans cette société qui est complètement horrible. Et c'est lutter qui me fait du bien. C'est être dans le combat, c'est être dans l'opposition à ce qui me fait vriller. Et du coup, si je commence à me faire du mal en faisant des trucs qui me font bader dans cette lutte, bah non, en fait. Genre, au contraire, je cherche du plaisir, je cherche de la joie, de la réjouissance. Je suis déjà assez en colère comme ça en général, quoi.
Alors, je voulais qu'on s'arrête brièvement sur la lutte contre le projet CIGEO, qui est le projet d'enfouissement de déchets radioactifs, les déchets radioactifs produits par le parc, les centrales nucléaires françaises, prévu, donc le projet prévu à Bure, à la limite entre la Meuse et la Haute-Marne. Quelles sont les personnes qui luttent là-bas et quelle forme cette lutte prend-elle aujourd'hui ?
J'ai hyper envie de répondre à cette question, mais est-ce que tu me permets d'abord de rajouter un tout petit mot sur la lutte à Bure ?
Vas-y.
Cool. La lutte à Bure, elle est particulière et j'invite vraiment toutes les personnes qui écoutent à se renseigner là-dessus et juste à venir sur place et à s'intéresser à ce sujet qui est juste passionnant. Le projet d'enfouissement CIGEO, c'est vraiment le talon d'Achille de la filière nucléaire. C'est le dernier maillon de la chaîne et c'est celui qui n'existe pas justement pour l'instant. Et l'État français veut absolument et à tout prix trouver une solution aussi terrible, catastrophique et pourrie techniquement soit-elle, pour cacher la poussière sous le tapis, pour faire disparaître ces déchets qui l'encombrent, qui nous dépassent, qui nous surpassent, qui nous inondent, et pouvoir dire « Ah, il n'y a plus de problème », ou du moins il est caché, donc on peut perpétuer et continuer la filière nucléaire. Moi, je le trouve passionnant, cette question des déchets. Ça mêle notre rapport à l'éternité, notre rapport à notre environnement. Donc, comme toujours, l'industrie enfouit les déchets qu'elle ne veut pas voir pour ne pas voir ses conséquences. Ça parle de notre rapport à l'éternité en tant qu'humains qui allons laisser sur la planète des trucs qui vont durer des centaines de milliers d'années. Enfin bref, c'est juste passionnant. Donc si ça vous intéresse, franchement, mais allez lire des trucs sur Bure, sur le projet CIGEO, sur l'enfouissement des déchets nucléaires. Et pour répondre à ta question, cette lutte, elle est aussi complètement passionnante par les personnes qui la structurent et par les différentes luttes qui la structurent. Donc le projet d'enfouissement à Bure, il est dans les tiroirs depuis 1993. Et du coup, depuis 1993, il y a une opposition sur place, qui a été pendant quasiment 20 ans quelque chose de très local. Donc les habitants, habitantes de Meuse et de Haute-Marne qui se sont opposés, qui ont manifesté, et malgré tout, malgré leur opposition bien qu'acharnée, c'est un territoire hyper peu peuplé et clairement, en termes de nombre, ils n'avaient pas le rapport de force. Et le projet s'est fait petit à petit, donc d'abord à l'échelle de la construction d'un laboratoire de recherche. Et à partir des années 2000, 2010, et puis surtout à partir de 2015, il y a eu vraiment l'arrivée massive de nouvelles personnes, de nouveaux militants, de personnes qui venaient d'ailleurs géographiquement, mais qui faisaient aussi d'ailleurs en termes d'histoire et de culture politique. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, quoi. C'est-à-dire que on a eu en fait des groupes très différents, de gens très différents, qui avaient des histoires, des cultures politiques différentes, qui ont dû commencer à bosser ensemble, à travailler ensemble. Et finalement, très vite, en 2016, à occuper une forêt ensemble. Donc évidemment, c'est plus par le fait de modes d'action plus spontanés et plus radicaux que le bois le jus a pu être occupé. Mais finalement, ça faisait complètement consensus. Et là, moi, je trouve que dans la lutte à Bure, on a vraiment eu un moment, un état de grâce où on a vu à quel point la complémentarité des cultures politiques et des modes d'action, elle était la seule solution, quoi. Et qu'en fait, c'était quand on arrête de se taper dessus, alors qu'on a un objectif commun et un ennemi commun, mais qu'on préfère taper sur notre voisin parce que, soi-disant, il ou elle va desservir la lutte, parce qu'il faudrait faire comme nous, on croit que c'est bien de faire, etc. Là, il y a eu comme un petit moment, une petite fenêtre où tout le monde a un peu bougé sur ses positions, les plus radicaux des radicaux et les assos historiques et les vieux paysans et les assos environnementalistes et autres, tout ce petit monde a un peu bossé ensemble, quoi. Et ça, c'était fort. Après, voilà, clairement, l'État a flippé. L'État a fort flippé de ça et la répression a été à hauteur de ce qui avait été accompli. Et du coup, la répression a été hyper dure et hyper forte. en 2017-2018. Et du coup, c'est très, très dur de tenir ce lien, quoi, ce truc entre les différentes composantes, quand en plus, déjà, on a quand même une propension certaine à se taper dessus entre nous dès la première difficulté. Mais aussi, c'était un des objectifs de l'État nucléaire qui réprimait que de diviser pour mieux régner. Et ça, ils l'ont parfaitement compris. Qu'en fait, notre alliance et le fait qu'on travaille ensemble et qu'on commence vraiment à se structurer entre groupes très différents, c'est ça qui leur faisait peur. Et ils ont cherché à tout prix à justement désolidariser, dissocier, etc.
Ça, tu penses que c'était une stratégie consciente de la part de l'État nucléaire de dire on voit qu'ils et elles sont en train de se structurer, d'agréger des formes très différentes et donc il faut briser cette unité.
C'est clair, c'est très clair. C'est tout l'enjeu de l'instruction pour association de malfaiteurs qui s'est passée. On l'a vu à maintes reprises en fait, que ce soit dans la répression au local, sur de la répression policière et du harcèlement policier, que vraiment sur des techniques de manipulation et autres. Enfin bref, oui, très clairement, c'est sans doute pas la seule. Et finalement, je suis pas dans leur tête et je pourrais jamais le prouver quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a vu.
Alors, on fait cet enregistrement début mai et les 1, 2 et 3 juin aura lieu le procès de 7 personnes poursuivies pour association de malfaiteurs pour des faits reprochés en 2016 et 2017, à l'époque que tu viens d'évoquer. Donc, le procès aura lieu à Bar-le-Duc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Eh bien, voilà, ce procès, c'est le procès, officiellement en tout cas, c'est le fameux procès tant attendu des soi-disant malfaiteurs, donc ceux que l'État veut dire comme malfaiteurs. C'est le procès de l'instruction. Une instruction qui a duré 2 ans, qui a mis quasiment une dizaine de personnes sous contrôle judiciaire, qui a vraiment miné la lutte parce que c'était hyper dur, quoi. Une surveillance complètement délirante du mouvement, des moyens de surveillance complètement démesurés et un acharnement contre certaines personnes. Et là, l'État veut faire le procès de ces personnes, sauf que très clairement, sur place, c'est pas ça qui va se passer. Et qu'en fait, les personnes présentes et les personnes concernées aussi ont lancé un grand mouvement, une grosse mobilisation, n'est-ce pas, autour de ce procès. Et ont bien l'intention que ce procès devienne le procès du projet CIGEO et que ce procès devienne le procès de l'État nucléaire et qu'on dénonce le projet CIGEO, l'enfouissement des déchets, l'État nucléaire, la répression. Et en fait, c'est un peu... Genre, oui, OK, on a des juges et un tribunal en face qui va pouvoir... bousiller la vie de personnes parce qu'elles ont voulu s'opposer... À l'État nucléaire. Sauf qu'en fait, là, pendant 3 jours, le but, ça va être justement d'inverser le rapport de force et de dire, en fait, on va faire votre procès. Et en fait, on va tellement médiatiser et on va tellement en parler et qu'en fait, on parlera pas de ça. On parlera pas de ce que vous voulez juger, quoi. Et on va voir. En tout cas, il y a un gros appel à converger là-bas le 1, 2, 3 juin. Et tout le monde peut y aller et ça va être un peu incroyable dans Bar-le-Duc, potentiellement.
Alors, je te propose d'écouter, on va passer à un autre sujet, d'écouter un extrait de l'émission À l'air libre de Mediapart de janvier 2021. Voici ce que répondait Sarah Durieux, la directrice de Change.org France, à la question de Mathieu Magnodex. En quoi la crise écologique crée-t-elle une urgence particulière en ce moment ? Est-ce que l'époque nous enjoint d'être radicaux ?
Je veux bien répondre là-dessus parce qu'en fait, c'est toujours ce qu'on oppose à qu'est-ce que serait une bonne mobilisation. Enfin, je pense que les gens qui sont non militants ou qui ont intérêt à ce qu'il y ait moins de militantisme disent toujours que la radicalité, c'est forcément quelque chose de négatif. Mmh. Je pense que c'est intéressant.
Qui aliène du reste du public.
Exactement. Donc, je pense que c'est important d'être radical dans ses ambitions. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une vraie question de comment est-ce qu'on crée du lien aujourd'hui à l'ère de la polarisation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à retrouver des publics qui ne sont pas sensibilisés aux questions que nous, on connaît bien et qu'on a envie de faire avancer. Et forcément, on a une forme d'urgence et d'envie de perfection. Mais on a aussi un enjeu à trouver des gens qui ne sont pas encore dans cette démarche-là. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire dans le livre. C'est ce que je dis, c'est... En fait, il faut parler avec nos émotions, parce qu'il y a un truc, on dit toujours aussi radicalité et émotion, c'est forcément quelque chose de négatif. Je pense qu'au contraire, en fait, il faut qu'on réapprenne à parler en empathie, enfin, à créer de l'empathie, à parler avec le cœur, pour retrouver justement ces autres publics qui ne sont pas aussi sensibilisés.
Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Non, bah juste sur une phrase de radicalité, émotion, parler avec le cœur. Moi, j'ai plutôt tendance à dire parler avec le ventre, mais en gros, je pense qu'on veut dire la même chose. Et ça, c'est très, très écoféministe. Hein. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec elle là-dessus.
L'écoféminisme, c'est un courant philosophique et politique qui considère qu'il y a un lien entre l'écologie et le féminisme. L'exploitation et la destruction de l'environnement par les humains et l'oppression des femmes par les hommes sont causées par un même système.
Mais sur d'autres sujets, ça mêle plein de choses, en fait, cet extrait. Ça mêle pas mal de points différents. Moi, il y en a peut-être un seul sur lequel j'aimerais rebondir, qui est cette question de la... sur la radicalité, je pense pas rebondir. Enfin, oui, bien sûr, c'est indispensable dans une idée de bataille culturelle. Et si on commence à défendre des opinions complètement consensuelles, on va juste se faire complètement tirer sur notre droite. Enfin, c'est une très mauvaise idée, stratégiquement. Mais sur les nouvelles personnes, sur la question de genre, est-ce que nos positions radicales vont empêcher des nouvelles personnes de sensibiliser, ou est-ce que comment on fait pour faire les deux en même temps, et comment on amène des nouvelles personnes à lutter avec nous, etc. Moi, c'est une question qui m'a pas mal interrogée, et j'ai pas fini d'y réfléchir, et j'ai pas de réponse arrêtée sur la question, mais plutôt j'en suis arrivée à un moment dans ma vie où je crois que c'est toujours aussi important de faire du taf d'information et de sensibilisation. Vraiment. Mais je crois que j'ai décidé d'arrêter de faire ça, pour l'instant en tout cas, et de me dire qu'il y a d'autres gens, d'autres orgas, qui le font très bien, qui vont justement plus avoir des positions peut-être plus... peut-être plus... Mais j'ai même pas envie de dire consensuel, parce que pour moi, il faut pas être consensuel et moins radical pour sensibiliser. En fait, il y a plein de gens ultra vénères aussi qui ont envie d'avoir accès à l'information. Donc ça, même ça, ça me convainc pas trop. Mais du coup, en tout cas, il y a des gens qui vont, et des structures qui sont là et qui vont faire de l'information et de la sensibilisation, et c'est ultra important. Mais je crois qu'il y a un autre taf qu'il faut pas oublier, et que je mets complètement en parallèle de ça, et qui, moi, m'anime beaucoup, qui est le fait de... Comment dire de... Il y a autre chose en parallèle de la sensibilisation, c'est le fait qu'au sein des personnes qui sont déjà sensibilisées, qui sont déjà politisées, il y a une grande partie de personnes, moi j'en croise tous les jours en fait, c'est mes potes, c'est mes voisins, etc., qui vont avoir les mêmes opinions que toi, qui vont grave pendant l'apéro à fond avoir des grands discours sur le monde, la politique, le capitalisme, l'état raciste, que sais-je, et que le nucléaire c'est vraiment horrible, mais qui vont avoir une sorte de défaitisme ou une sorte de, je sais pas, de vraiment impossibilité de l'action, quoi. Et ça, moi, ça me rend ouf quand je vois, en fait, la quantité de personnes, quand je vois combien on va être à des manifs, ou combien on va être à des actions, ou combien on va être à aller sur un lieu de lutte, ou à défendre une expulsion, ou quoi que ce soit. Et en fait, il y a vraiment ce truc de retrouver du pouvoir d'agir. Et là, moi, ça m'interroge presque plus en ce moment que comment atteindre des nouvelles personnes par l'information et la sensibilisation. C'est vraiment au sein de cette grande, grande manne de personnes qui sont sensibilisées, qui sont d'accord avec toi, c'est comment faire pour que on puisse de nouveau faire croire que, en fait, on peut gagner des trucs, on peut avoir du rapport de force, on peut, en s'organisant collectivement ensemble, faire des trucs, quoi. Et qu'en plus, c'est le fun de faire ça. Et ça, ça moi, ça me taraude pas mal, quoi.
Et d'après toi, c'est quoi les raisons qui expliquent que ces personnes, certes, sont sensibilisées à une ou plusieurs problématiques, mais qu'elles ne passent pas le pas ou que très ponctuellement, et que finalement, ça n'engendre pas chez elles un effet boule de neige ?
Je sais pas, je pense qu'il y a... Je serais bien en peine de faire une analyse approfondie et j'aimerais... J'ai pas trop envie de dire de conneries, mais... Il y a sans doute un truc de peur déjà, en fait,
la répression en face des mouvements sociaux. En ce moment, on l'a vu pendant les manifs depuis 2016 avec la loi travail, puis les gilets jaunes, etc. Genre ultra violent, la réponse en face, mais tellement violent. Le nombre de potes que je connais qui n'osent plus aller en manif, mais moi, ça me rend si triste. Et donc, ouais, il y a un truc de flip de la répression, etc. Il y a aussi un truc de défaitisme hyper fort, d'avoir vraiment l'impression qu'en fait, il y a eu une grande période de l'histoire, on a acquis des droits sociaux, etc. On est allé plus loin, un truc plus progressiste, plus émancipateur, et qu'en fait, aujourd'hui, on est dans le mouvement complètement inverse, où en fait, on se bat systématiquement pour conserver quelques miettes de ces droits acquis, de ces... Et ça rend si triste aussi. Et du coup, franchement, se battre pour pas perdre des trucs, c'est pas très motivant. Et il y a un truc hyper fort de défaitisme. Enfin, juste regarde sur les systèmes des retraites, tu vois, sur les mobilisations face au système des retraites. Enfin, il y a tellement un truc de genre, c'est quoi, de toute façon, on n'aura jamais de retraite. Ce à quoi, je suis d'accord, tu vois, et c'est vrai. Et en même temps, punaise, si on pense comme ça sur tout, mais on est mort, quoi.
Et ce sera ma dernière question. Quel conseil ou quel message tu aimerais donner aux personnes qui nous écoutent et qui ont envie ou qui peut-être ne savent pas qu'elles ont envie d'agir davantage?
Bon, en fait, c'est tout ce que je viens de dire juste avant. Toutes les formes d'action sont bonnes à prendre. Il n'y en a pas des bonnes et des mauvaises. Des collectifs qui s'organisent en bas de chez toi, il y en a forcément, il y en a plein. Et si le premier que tu vas voir, il te correspond pas, ou qu'il y a trop de pélos relous dedans, ou que quoi que ce soit, il y en aura un autre, cherche-en un autre, en fait, il y en a plein. Et puis, structure la peur. Mais ça, c'est pas un conseil. J'oserais jamais dire à quelqu'un n'ayons pas peur ou arrête d'avoir peur. Je pourrais jamais dire ça à quelqu'un, mais qu'on réfléchisse à ça, à peut-être pourquoi on a peur et est-ce qu'on a raison et comment on dépasse ça ensemble.
Mais je te propose qu'on en reste là. Merci encore à toi de t'être prêté au jeu.
Merci. Salut, à bientôt.